Dans le livre de Jérémie, livre de Jérémie, Jérémie chapitre 31, Jérémie chapitre 31, j'ai oublié ma Darby ce matin, je voulais lire un passage à la Darby, mais bon. On ne lira pas tout le chapitre 29, il y a 32 versets qui représentent à peu près 64 versets du Nouveau Testament. Ils sont très longs, les versets dans l'Ancien souvent, mais simplement, nous arrêter sur un verset ce matin, c'est le verset 11. Le verset 11 qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, c'est important de lire le passage dans son contexte, ça nous évite de faire des erreurs théologiques importantes. Quand on dit que personne ne cherche le Seigneur, il faut regarder dans quel contexte le verset est cité. Parce que sinon, la Bible, elle entre en contradiction avec ce qu'elle dit, puisque le Seigneur, il dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alors, on va prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est vrai que nous voulons te rendre grâce ce matin parce que tu nous as donné ta parole afin que celui qui veut te trouver de tout son cœur, Seigneur, puisse, celui qui veut te chercher de tout son cœur, Seigneur, puisse te trouver. Nous voulons te louer ce matin, Seigneur, parce que c'est ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux qui se laisse trouver par sa pauvre et misérable créature, Seigneur, qui est perdue. Et Seigneur, tu nous dis qu'à travers ta parole, lorsque nous l'entendons, eh bien, la foi vient de ce que nous entendons. Et Seigneur, elle vient de ta parole. Merci pour cette parole qui est descendue du ciel, que tu as mis, Seigneur, par écrit, et qui nous permet, Seigneur, d'avoir un avenir et une espérance parce que c'est toi qui l'as promis. Et cet avenir et cette espérance, Seigneur, tu la donnes à tous ceux, Seigneur, qui se détournent de leurs péchés, qui se tournent vers toi et qui placent leur confiance dans ce que Jésus a accompli à la croix pour chacun d'eux. Merci encore une fois pour cette espérance que tu nous donnes. Elle est vivante, ce n'est pas une espérance morte, c'est aussi une foi vivante que tu nous donnes. Et nous voulons te louer pour tout cela ce matin, en te demandant d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, afin que, Seigneur, tu puisses parler, répondre à nos besoins. Tu connais les besoins de chacun, tu connais ce que nous vivons, Seigneur, dans notre intimité. Et Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés vraiment pour que tu puisses marquer de ton empreinte, Seigneur, par ta parole, le cœur de chacun de nous ici présents ce matin. Nous voulons avoir une pensée aussi pour ceux et celles qui sont malades, qui n'ont pu se déplacer pour une raison quelconque. Bénis-les, Seigneur, là où ils se trouvent, fais-leur du bien, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Et tout cela, c'est dans le bon nom de Jésus que nous te prions. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Alors, ces paroles ce matin que nous avons lues, eh bien, ont été écrites par le prophète Jérémie aux Juifs qui avaient été forcés par le roi Nebuchadnezzar de quitter leur pays pour aller vivre à Babylone. Et le prophète, ici, vous verrez dans les versets 5 et suivants, le prophète, eh bien, les avait exhortés à construire des maisons, à fonder des familles et à vivre paisiblement pendant 70 ans dans ce pays jusqu'à ce que le Seigneur les ramène en Israël. Mais il y avait un sentiment de malaise général parmi les Juifs et les autres nations qui étaient assujettis à Nebuchadnezzar. Ils ne voulaient plus se soumettre à la poigne de fer exercée par les Babyloniens et ils complétaient et planifiaient continuellement des émeutes. Et certains faux prophètes qui vivaient au milieu d'eux, animés d'un esprit de rébellion, les encourageaient à se révolter. Et frères et sœurs, de son côté, eh bien, qu'est-ce que Jérémie essayait de faire? Il essayait de les rassurer en leur disant que c'est Dieu qui les avait envoyés dans le pays des Chaldéens pour leur bien, leur ordonnant de rechercher la paix dans la ville où ils habitaient, en leur promettant que lorsque le moment serait venu, eh bien, le Seigneur planifierait à nouveau de les ramener dans leur pays. Et au milieu de toutes ces épreuves et des difficultés qu'ils vivaient à Babylone, les Israélites se demandaient où était Dieu au milieu de tout cela. Et souvent, nous vivons des difficultés et on se demande où est Dieu? Où est Dieu au milieu de mes difficultés? Les Israélites se demandaient où est Dieu pendant que nous sommes en captivité. Et c'est la même chose pour nous. Souvent, nous sommes captifs de différentes choses et on se demande où est Dieu? Dieu qui me promet de me délivrer. Et les Israélites, ils se demandaient où est Dieu pendant que nous sommes si loin de notre terre natale. Les Israélites se demandaient où est Dieu alors que tout ce que nous avons connu nous a été enlevé. Où est Dieu au milieu de toute cette souffrance et de toute cette confusion que nous vivons? Et frères et sœurs, c'est des questions que des chrétiens peuvent se poser. Où est Dieu alors qu'on voit dans le monde la confusion totale? Où est Dieu au milieu de tout cela? Et dans toute leur confusion et dans leur désespoir, ils avaient commis deux erreurs qui sont très humaines et que nous pouvons aussi commettre. Ils avaient pensé qu'ils n'iraient jamais à Babylone, ce qui les a amenés à perdre leur assurance. Et frères et sœurs, le diable peut nous convaincre, malgré ce que la parole nous promet, que nous n'irons jamais au ciel, que nous n'entrerons jamais au paradis, que nous passerons jamais l'éternité avec le Seigneur. Et c'est humain de penser comme ça, mais ce n'est pas chrétien, mais c'est humain. Deuxièmement, ils pensaient qu'ils ne sortiraient jamais de Babylone, ce qui les avait amenés au désespoir le plus total. Il nous arrive, frères et sœurs, de faire la même erreur, je le répète. Lorsqu'il nous arrive de penser qu'il nous arrivera, et mes amis, j'utilise le mot arriver, hein, assez souvent, non? Lorsqu'on pense qu'il nous arrivera rien de trop grave, et que lorsque nous pensons que nous ne sortirons jamais, nous ne sortirons jamais de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'était la façon de voir des Israélites qui étaient à Babylone. Et Dieu va les encourager à travers le prophète Jérémie. Il avait une double tâche, le prophète, c'était de réprimer les faux espoirs et de maintenir les attentes légitimes des Israélites. Il va donc clairement les avertir de penser, d'arrêter de penser, recevoir au-delà de ce que le Seigneur avait promis. Et ça nous interpelle aussi ce matin. Combien de chrétiens sont déçus, sont découragés? Parce qu'ils s'appuient sur des choses que Dieu a promis, mais qui vont au-delà de ce que Dieu a promis. Et parce qu'ils ne les reçoivent pas, ils sont déçus, ils sont découragés. Et Jérémie va les secouer pour qu'ils gardent les yeux fixés sur ce que Dieu avait promis. Arrêtez de dépasser ou de rajouter ce que Dieu a promis. Limitez-vous à ce que Dieu a promis et vous pouvez être certain que ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Vous dites « Amen » à ça. Lisons le verset 10. « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. » En vous ramenant dans ce lieu. En d'autres mots, le Seigneur leur dit, « En son temps, je réaliserai le bien que je vous ai promis. En son temps, je réaliserai le bien que je vous ai promis. » Frères et sœurs, nous avons besoin de croire à ce que notre Seigneur nous a laissé dans sa parole et de nous attacher fortement à cette parole de tout notre cœur, en étant assurés que Dieu n'accomplira pas nécessairement ce que nous aimerions qu'il fasse pour nous, mais qu'il fera tout ce qu'il dit qu'il fera dans sa parole. Quelle différence! C'est vraiment important de saisir ça. Dieu n'accomplira pas nécessairement tout ce que nous aimerions qu'il fasse pour nous, mais nous pouvons avoir l'assurance que Dieu fera toujours ce qu'il a promis dans sa parole. Il y a des gens qui marchent plutôt de leur vie chrétienne sur la première façon de voir les choses, pensant que Dieu va accomplir nécessairement ce qu'ils aimeraient qu'il accomplisse, et qui sont continuellement des chrétiens déçus, alors que la parole nous invite à nous arrêter à ce que Dieu a promis, c'est ce qu'il va accomplir. Mais pas ce que nous aimerions nécessairement, pas ce que nous espérerions nécessairement. Comme l'herbe et la fleur, dit Isaïe, les faux docteurs et les faux prophètes avec leurs vaines paroles finiront par disparaître, mais la parole de Dieu subsistera éternellement. Et j'aimerais ce matin que ce message puisse réconforter, consoler, encourager tous ceux qui sont dans le doute et dans l'incertitude et qui sont maintenus captifs dans cet état d'esprit. J'aimerais les rassurer en leur disant que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées envers eux. Amen. Dieu est riche en bonté. Pas riche en bonté, riche en bonté, frères et sœurs. Dieu est riche en bonté. Et je vous invite à faire confiance, à ne pas avoir peur et à ne pas avoir peur. Dieu accomplira sa bonne parole à son égard. C'est ce qu'il nous dit au verset 11. Même si les épreuves que vous vivez peuvent être importantes. Et ce matin, j'aimerais examiner avec vous deux choses qui se trouvent dans ce verset. Premièrement, les pensées que le Seigneur pense à l'égard de son peuple. Je connais les pensées que je pense à votre égard, dit le Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Ça, c'est la version Darby. Et je dois humblement confesser que notre frère Darby, qui est auprès du Seigneur maintenant, a vraiment traduit à partir du texte hébreu, parce qu'ici on lit dans second, car je connais les projets que j'ai donnés, que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais si on le lit dans le texte hébreu, voici ce que ça donne. Je connais les pensées que je pense à votre égard. C'est vrai que ce n'est pas du bon français, mais c'est clair. Ça veut dire quoi? Que Dieu, il ne dit pas ce qu'il n'a jamais pensé. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il y a pensé. Et quand Dieu parle, c'est parce qu'il a pensé depuis toute éternité. Dieu, il vit dans l'éternité. Et le texte hébreu, s'il nous dit, « Je connais les pensées que je pense à votre égard, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Ça, c'est le texte hébreu. Maintenant, en français, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement facile à comprendre, mais c'est encourageant. En français, on nous dit, le Seigneur nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Ce ne sont non pas des projets de malheur, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, le seul avenir que les gens peuvent préparer dans ce monde, c'est de réussir leur vie. On vous a déjà dit ça, hein? Prends tes études au sérieux, parce que tout dépend, ton avenir dépend de tout, de toutes les études que tu vas faire et des résultats que tu vas avoir. Ne rate pas ta vie. Prends tes études au sérieux, souvent, ton avenir en dépend, ton avenir. Mais quand on est mort, notre avenir, eh bien, il n'y en a plus d'avenir. Notre avenir devient notre passé. Mais le Seigneur nous dit, pour ceux qui lui appartiennent, qu'il y a un avenir en réserve pour nous et une espérance en réserve pour nous. Frères et sœurs, nous vivons dans le temps présent, nous sommes déjà entrés dans l'éternité parce que nos pensées sont fixées là-haut vers le ciel. Mais Dieu nous a donné un avenir qui est éternel. Dieu nous a donné une espérance, l'espérance de la résurrection, une espérance qui est éternelle, frères et sœurs. Et c'est en fonction de cela que nous sommes appelés à vivre, sinon nous allons sombrer dans le découragement, nous allons sombrer dans le désespoir comme les gens de ce monde le font. Frères et sœurs, si Christ n'est pas mort et s'il n'est pas ressuscité, l'apôtre Paul il dit, arrêtez de croire, parce que mangez, buvez, parce que demain vous allez mourir, c'est la seule chose qui vous reste à espérer. C'est la seule chose dans laquelle vous pouvez trouver votre plaisir. Mangez et buvez, si Christ n'est pas ressuscité des morts. Et Dieu nous a donné un avenir, et nous a donné une espérance, et cette espérance, elle est vivante. Vous êtes amen à ça? Remarquez ce qu'il est écrit ici, « Je connais les pensées que je pense à votre égard, et ces pensées concernant son peuple sont de bons souvenirs pour Dieu. » À chaque instant, cela signifie qu'à chaque instant, Dieu n'a pensé qu'au bien de son peuple. Et il dit dans Jérémie chapitre 31, verset 3, pour tous les nouveaux chrétiens, vous devriez apprendre ce verset par cœur, il est court. Vous devriez l'apprendre par cœur. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. Je t'aime d'un amour éternel. Il ne dit pas, j'ai commencé à t'aimer un jour. Il ne dit pas, je vais peut-être arrêter de t'aimer un jour. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Frères et sœurs, c'est un verset qui est extrêmement puissant. On vit dans le temps. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai commencé à l'aimer, puis peut-être qu'un jour, je ne l'aimerai plus. J'ai eu des copains qui ont commencé à m'aimer un jour et puis qui ne m'aiment plus aujourd'hui. Il y en a qui me détestent aujourd'hui et qui vont m'aimer un jour. Et Dieu nous dit, pour nous réconforter, je t'aime d'un amour éternel. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu n'a jamais commencé à vous aimer. Il n'y a aucun moment où Dieu a commencé à vous aimer. Il vous aime depuis toute éternité. Avant même qu'il crée l'univers, Dieu nous aimait, frères et sœurs. Avant même de créer l'univers, Dieu avait déjà un plan pour nous racheter. Avant même de créer l'univers, Dieu avait déjà préparé un paradis pour nous. Parce que Dieu nous aime d'un amour éternel. C'est pas un beau verset, ça? Frères et sœurs, on ne peut pas trop gratter le mot éternel parce qu'il n'y a rien d'éternel sur la terre. Le temps nous est compté, on vit dans le temps, on vit dans les secondes, les minutes, les heures. On vit dans les jours, les semaines, les mois, les années, les siècles. Mais ce sont tous ces mots, c'est un vocabulaire qui n'existe pas dans le royaume de Dieu. Dans le mot éternel, ça n'existe pas, les semaines, les minutes, ça ne compte plus. Alors, essayez de vous imaginer que Dieu qui est éternel, il voyage autant en l'an 2500 avant Jésus-Christ qu'il peut voyager en avant 2500 ans après Jésus-Christ en même temps. Le temps ne compte pas dans l'éternité. On est incapable de comprendre ça. Voilà pourquoi il n'y a rien qui peut échapper à Dieu. Il y a 4500 ans, Dieu savait ce qui se passerait en l'an 2014, en l'an 2015, en l'an 2016. Le temps ne compte pas pour Dieu. Il vit dans tout ce temps qui nous paraît très long pour nous, mais il le vit en même temps. Essayez de comprendre ça, la nature de Dieu. On est incapable de saisir ça. Alors maintenant, essayez de saisir que Dieu vous aime d'un amour éternel. On n'est pas capable de le comprendre. C'est extraordinaire. Dieu nous aime d'un amour éternel. Et le point qui est soulevé ici, c'est que Dieu pense toujours à ceux qui lui appartiennent. Son regard et ses mains sont continuellement tournés vers son peuple. Il est vrai qu'il pense tellement à nous qu'il fait en sorte d'arranger toutes choses pour pourvoir à tous nos besoins et pour nous protéger de tout danger. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Dieu ne nous donnera pas nécessairement tout ce que nous espérions qu'il nous donnera, mais qu'il va donner ce qu'il va nous donner ce qu'il a promis de nous donner. David disait à son époque, « Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. » Combien David devait être dans la joie, malgré tout ce qu'il vivait, malgré les poursuites de Saül après lui pendant des années. Et Saül, c'était pas pour lui remettre un diplôme de sympathie. Saül qui courait après David, c'était pour le tuer. Et David dit, « Moi, je suis pauvre et malheureux, mais ce qui fait ma joie, c'est que Dieu pense à moi. » Et j'espère que c'est votre joie ce matin, parce que ce qui se dit dans ce passage, Dieu pense à ses enfants. Ouais. Et Dieu pense à ses enfants pour eux, et il y a une raison pourquoi il pense à ses enfants, parce qu'il s'est fait homme, il a payé le prix pour qu'on devienne ses enfants, et maintenant, il s'attelle à faire en sorte qu'on puisse passer par ce chemin de la sanctification afin qu'on puisse ressembler à Jésus-Christ. David disait à son époque, « Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. » Frères et sœurs, nous apprécions que nos amis pensent à nous parce que le fait de penser à quelqu'un signifie que nous aimons cette personne. Frères et sœurs, comment on fait dans la vie chrétienne pour exprimer à quelqu'un qu'on pense à lui? Comment on fait dans la vie chrétienne pour exprimer à quelqu'un qu'on pense à lui? Ce n'est pas nécessairement envoyer une petite carte. Hein? Ou sur la petite carte, ce qui doit être écrit, je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Vous savez comment nous savons que Jésus continue à nous aimer? Il est au ciel. Il est assis à la droite de Dieu et il prie pour vous et pour moi. Quand on donne des sujets de prière, les gens nous promettent de prier pour ces sujets. Et que deux, trois semaines après, ils viennent te voir et disent, on parle de ces sujets et qu'ils ne se souviennent même pas des noms qu'on a donnés. C'est les gens à qui on peut remettre en question l'amour pour les gens qu'on leur a suggéré de prier. Frères et sœurs, l'amour se manifeste dans la vie chrétienne les uns vers les autres, dans notre façon de prier les uns pour les autres. Il y a une promesse dans les Écritures, c'est dans l'Épître de Jean. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Guéris d'une vie de péché, guéris d'une vie de misère. Guéris aussi physiquement, parce que Dieu guérit encore physiquement. Mes frères et sœurs, on manifeste que nous nous aimons les uns les autres parce que nous soutenons les frères et sœurs qui sont dans le besoin et qui ont besoin de nos prières. Et on intercède auprès du trône de la grâce de Dieu pour demander à Dieu qu'il ait pitié d'un frère, pitié d'une sœur qui s'est éloignée de lui. On intercède devant la grâce de Dieu parce qu'on aime notre frère et on voudrait que Dieu le soulage de ses blessures physiques ou morales. Frères et sœurs, le chrétien manifeste qu'il aime son frère et sa sœur lorsqu'il prie pour lui. Pas juste de donner en apparence, ça c'est les apparences, mais on manifeste qu'on aime notre frère et notre sœur du fond de notre cœur, parce que dans le secret de notre chambre, on prie pour ce frère et on prie pour cette sœur. Amen. Dieu n'oublie jamais son peuple, ceux qui font partie de son peuple, puisque, et ça aussi vous deviez apprendre ce verset-là par cœur les jeunes chrétiens, Ésaïe 49, 16, parce que vos noms sont gravés dans ses mains. Avez-vous pensé? Pas écrit, parce qu'avec le temps, c'est l'usure. Vous avez vu les pierres tombales, hein? Quand ça fait 150 ans que la personne est enterrée, On a de la difficulté à lire, hein? La pluie, le froid, le vent, finalement, ça vient écorcher les lettres et on a de la difficulté à lire. Mais Dieu n'a pas écrit vos noms dans ses mains. Il les a gravés. Gravés. Magnifique, non? Vous pensez que quand le Seigneur fait juste se tourner comme ça pour bénir la terre, il voit vos noms, il voit mon nom. Il se rappelle que nous sommes ses enfants. Il se rappelle qu'il nous a promis qu'il nous protégerait. Il se rappelle qu'il nous a promis de nous reprendre si nous nous éloignons de lui. Et il le fait parce qu'il nous aime. Dieu, vos noms sont gravés dans les mains de Dieu. En aucun moment, cela signifie qu'il détourne ses pensées de ceux qu'il aime, même s'il doit veiller et régner sur tout l'univers. En parlant de son peuple, il dit dans Isaïe, « Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant. Nuit et jour, je le garde. Nuit et jour, il veille sur nous. Même quand on dort, on peut se reposer et s'appuyer sur le Seigneur, il veille sur nous. Ces gens qui vivaient en captivité croyaient que Dieu les avait oubliés et abandonnés. Voilà pourquoi le Seigneur va répéter ses paroles pour ces gens qui sont en captivité et qu'il va utiliser le mot « penser ». Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre la version Darby, parce que le mot « penser » dans la version Darby apparaît à 3 reprises. Donc, quand un mot est souligné 3 fois dans le même verset, on peut se dire une chose, que c'est que ce que Dieu a dit, il y a vraiment pensé. Et non seulement il y a pensé, mais il va le mettre aussi en application. Pardon. Tout ce que le Seigneur faisait pour eux était calculé minutieusement. Ses pensées de paix, non de malheur qu'il avait envers eux, laissaient supposer qu'il les suivrait tout au long de leur captivité, qui devait durer 70 ans. Si un jour pour le Seigneur c'est 1000 ans, vous imaginez que 70 ans, ce n'est pas grand-chose pour le Seigneur. Hein? Mais le Seigneur va les suivre pendant toute la durée de leur captivité. Frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui vit des difficultés ou une grande tristesse dans son cœur ce matin, ne pensez pas que vous vivez cette situation parce que Dieu vous a abandonné. Si vous lui appartenez, il pense constamment à vous. C'est une promesse des Écritures. Je dirais même plus, vous ne cessez pas d'être dans ses pensées. C'est encourageant, c'est fortifiant. C'est fortifiant. Nous, on oublie des amis. On oublie de fêter telle chose. On a besoin des fois de prendre des notes. On a besoin des agendas pour se rappeler qu'on doit appeler quelqu'un pour... Il souhaitait un bon anniversaire pour ci, pour ça. Facebook, ça marche bien, ça. Moi, je suis un gars qui oublie souvent. Je ne vais pas sur Facebook, mais on me rappelle que c'était la fête d'un autre. Des fois, bien, je le vois un mois plus tard parce que je ne vais pas nécessairement sur Facebook trop souvent. Mais on a des agendas, on a un système de pensée qui nous amène à pouvoir penser à nos amis. Mes frères et sœurs, on est constamment dans les pensées de Dieu. Constamment, peu importe ce qui arrive sur la tête. Rappelons-nous que Dieu n'agit jamais de façon réfléchie, ce qu'il fait toujours réfléchi, l'un ne va pas sans l'autre. Il pense tellement à son peuple, frères et sœurs. Il pense tellement à vous que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est extraordinaire, ça, non? Oui, Rudy, c'est plus facile de compter sur certaines têtes que sur d'autres, mais vos cheveux sont tous comptés. Vous savez combien de temps ça vous prendrait à compter vos cheveux? Le Seigneur, il les connaît tous. Il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. C'est incroyable. Imaginez, il ne pense pas seulement aux grandes choses qui sont importantes dans la vie, mais aux petites choses qui sont secondaires, comme les cheveux qui sont sur nos têtes, frères et sœurs. Toute situation difficile que nous vivons est calculée et pesée. Et chaque parole de réconfort est envoyé par Dieu avec une délicatesse qui la rend tellement précieuse à nos yeux, et cela au-delà de ce que nous aurions pu espérer. Rien de ce qui nous est arrivé est la conséquence d'un destin impitoyable, et Dieu qui connaissait tout ce que vous alliez vivre dans votre vie, l'a permis afin que vous puissiez venir ou revenir à lui. Rappelons-nous que le Dieu qui nous aime d'un amour éternel a des pensées de paix pour vous et moi, afin que nous vivions en paix les uns avec les autres. Dieu sait tout, même quand nous ne savons pas. Il ne rate jamais son coup, il n'est jamais pris au dépourvu. Quand Moïse est sorti d'Égypte, frères et sœurs, il n'avait aucune idée de la direction qu'il devait prendre avec le peuple. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il savait qu'il devait conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, mais c'était tout. Il espérait probablement traverser la Palestine parce que c'était le chemin le plus court pour se rendre dans la terre promise, mais Dieu en avait décidé autrement. Frères et sœurs, Dieu n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a dit à Moïse de changer de cap et de faire un léger détour au peuple d'Israël par le chemin du désert vers la mer Rouge. Dieu n'a pas fait d'erreur lorsqu'il a demandé à Moïse de les faire camper devant Pithahiroth, un endroit marécageux près de la mer. Le Seigneur savait que le Pharaon dirait des enfants d'Israël, « Ils sont égarés dans le pays, ils sont prisonniers du désert, ils sont à nous. » Les Israélites ne pouvaient pas revenir en arrière parce que les Égyptiens se trouvaient derrière eux. Ils ne pouvaient pas continuer en avant parce que la mer Rouge était devant eux. Le Seigneur lui savait déjà quel chemin les Israélites allaient prendre. Il n'a pas été pris au dépourvu lorsqu'il a entendu le Pharaon dire, « Nous allons les poursuivre, nous allons les surprendre, nous allons partager leur butin et les ramener en Égypte. » Parce qu'il savait d'avance ce qu'il ferait. Pharaon et toute son armée allaient servir à faire en sorte que Dieu manifeste sa gloire. Et les Égyptiens sauraient que Dieu est l'Éternel des armées. Frères et sœurs, Dieu a manifesté sa gloire à travers Pharaon, un bourré d'orgueil. Ouais. Et il a manifesté sa gloire comment? Rappelez-vous, je vous ai dit, la gloire de Dieu, c'est trois choses. La présence de Dieu, la puissance de Dieu et les attributs de Dieu, c'est-à-dire les fruits de l'Esprit. Et Dieu va manifester sa gloire en manifestant sa puissance. Il va montrer qu'il est présent avec son peuple dans une colonne de fumée, dans une colonne de feu. Il va manifester sa puissance, il va ouvrir les eaux. Va faire traverser son peuple. Et quand le peuple aura traversé, que les Égyptiens entreront dans l'eau, Dieu va fermer les eaux. Ce n'est pas un tsunami qui a provoqué ça. C'est la main de Dieu qui a provoqué ces choses. Et nous pouvons nous y fier. Dieu est puissant et Dieu va manifester sa gloire dans vos vies. Dieu va agir avec puissance dans vos vies, dans la mienne. Dieu va manifester qu'il est présent dans votre vie, dans la mienne. Et Dieu va manifester ses attributs, ses fruits de l'Esprit dans votre vie, dans la mienne. Amen. Et ça, c'est le contrat qui s'est donné après nous avoir justifiés à la croix. Ça s'appelle la sanctification. Dans le passage qu'on vient de lire ici, le Seigneur aurait pu se limiter à dire « Les pensées que j'ai pour vous, ce sont des pensées de paix. » Et cela aurait été suffisamment clair pour nous, frères et sœurs, mais il ajoute « Et non de malheur. » Il ajoute « Et non de malheur. » Ce que j'ai pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur. Cela devrait être une source d'encouragement pour nous lorsque nous vivons des moments difficiles et que l'ennemi de nos âmes vient chuchoter à notre oreille, que le Seigneur pense à nous faire du mal et qu'il finira par nous rejeter. Dieu a dit, j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous. Et des projets de malheur, ça veut dire, je n'ai pas projeté de vous faire du mal. J'ai projeté de vous faire du bien. À travers la paix que vous recevez quand vous prenez cette décision pour Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirmera jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. S'il affirme qu'il a des projets de paix pour vous, s'il affirme qu'il a des projets de paix pour moi et non des projets de malheur, nous pouvons lui faire confiance. Dieu n'a pas des projets de malheur envers ses enfants. Il n'a aucunement le désir de faire du mal, mais plutôt un seul, celui de nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Ses pensées ne sont pas des pensées de malheur. Il ne se perdra pas un seul cheveu sur votre tête que Dieu n'aura promis. Et la prochaine fois que le diable viendra vous chuter à l'oreille que Dieu a projeté de vous faire du mal, dites-lui que les pensées du Seigneur ne sont pas des pensées de malheur, mais des pensées de paix. Chassez-le avec ces paroles. Quand le diable vient chercher à déverser dans vos oreilles des paroles qui discréditent le Seigneur Jésus, répliquez-lui en lui disant, « Non, il est impossible que le Dieu que je sers puisse vouloir me faire du mal. » Frères et sœurs, on a besoin d'avoir cette assurance ce matin que Dieu ne cherche pas à nous faire du mal. Que quand on passe par des moments difficiles, quand on vit des épreuves difficiles, c'est que Dieu connaît chaque personne ici individuellement. Et Dieu, ce qu'il vise par-dessus tout, c'est nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. C'est tout ce qui l'intéresse. Parce que quand plus on ressemble à la personne de Jésus-Christ, plus il est capable de manifester sa gloire à travers ses enfants. Et frères et sœurs, si vous êtes vraiment nés de nouveau, et que vous vivez dans le péché, que vous vivez de façon très charnelle, si vous appartenez vraiment au Seigneur, vous pouvez être certain que le Seigneur va intervenir dans votre vie pour vous ramener dans le droit chemin. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que s'il ne le fait pas, quand on vit dans le péché, bien on peut s'interroger jusqu'à quel point on a vécu cette expérience de salut avec le Seigneur. Et c'est là qu'il dit « Qui aime bien, châtie bien. » Lisez ces passages de l'Épître aux Hébreux, 7-8 versets. Frères et sœurs, Dieu nous montre qu'il est présent dans notre vie parce qu'il a toujours un œil sur nous. Et quand on... il nous donne des avertissements. Et si ça ne fait pas, une petite tape sur les fesses, à travers une bonne épreuve solide. Et ça ne suffit pas, ben passer par la maladie. Si ça ne suffit pas, c'est autre chose. Et le but, ce n'est pas parce qu'il veut nous faire du mal, ce n'est pas parce qu'il nous déteste. C'est parce qu'il veut nous ramener à vivre comme lui le demande, comme à des enfants qui ont fait cette expérience et cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu ne peut pas avoir des projets de malheur ou projeter de faire du mal envers ceux qui sont devenus ses enfants, qui obéissent à sa parole et qui sont appelés à passer l'éternité dans sa présence. Celui qui a sacrifié son propre fils sur la croix, pour nous, ne peut pas avoir d'autres projets pour nous que des projets de paix. Même si parfois il est difficile pour nous de croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur sait non seulement ce qu'il fait, mais ce qui va arriver avant même qu'il ait commencé à intervenir. Pensez à Joseph. Je vais prendre un exemple que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans une église de Chicago, mais pensez à Joseph. La Bible nous dit que ce qu'on a dans l'Ancien Testament, c'est pour nous servir d'exemple, nous, les croyants du Nouveau. Pensez à Joseph. Allez dire à Joseph là, qui a refusé de coucher avec la femme de Potiphar, qui se fait mettre en prison pour rien. Là. Allez dire à Joseph qui se fait mettre dans une citerne par ses frères parce qu'ils sont jaloux. Joseph, c'est vrai hein, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Allez lui dire ça, ce verset-là. Mais Joseph, il ne connaissait pas sa vie future. Dieu la connaissait. Et ce que Dieu faisait à travers Joseph, c'était pour son bien. D'abord, pour lui apprendre à pardonner à ses frères. Pourquoi? Parce qu'il les mettrait sur le trône d'Égypte un jour. Et si Joseph n'avait pas appris à pardonner à ses frères, la première fois qu'il les avait rencontrés, ils les auraient tous fait décapiter. Le non-pardon, ça tue un homme. Le non-pardon, ça fait mourir des gens. Et Joseph, à travers ce qu'il a vécu, eh bien, a réalisé, il a dit dans le chapitre 49, « Vous aviez complété de me faire du mal, mais Dieu a tourné le mal que vous vouliez me faire, il l'a tourné en bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Joseph, il n'avait pas à s'inquiéter, il marchait dans les voies du Seigneur, même s'il était emprisonné, même s'il était condamné injustement, il n'avait pas à s'inquiéter puisqu'il marchait dans les voies du Seigneur. Et le Seigneur nous rappelle que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne connaissait pas son avenir, mais Dieu voyage dans l'éternité. Et il savait que pour sauver son peuple, il y aurait une grosse famine qu'il provoquerait. Et pour sauver son peuple, eh bien, et rencontrer la promesse qu'il avait faite à Abraham, il savait que son peuple devait venir en Égypte. Et pour amener son peuple en Égypte, il ne fallait pas que ce soit le Pharaon qui soit sur le trône, mais il fallait que Joseph soit devenu l'égal de Pharaon pour pouvoir protéger le peuple d'Israël en Égypte. Frères et sœurs, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La maladie peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu en les rapprochant du Seigneur. Notre vie prière est déficiente parce que tout va bien. Le Seigneur provoque la maladie. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tombe à genoux et on crie au Seigneur. Et on lui demande pardon parce qu'on l'a oublié, parce qu'on l'a négligé, parce qu'il nous dit de prier sans cesse et qu'on ne l'a pas fait. Dieu a des moyens soupçonnés pour nous garder étroitement en relation avec lui, frères et sœurs. Amen. Et tout ça parce qu'il a des projets de paix et non de malheur pour vous et pour moi. Quel Dieu merveilleux nous avons. On va sauter quelques pages. Je vais terminer avec la deuxième point que je voulais vous amener. L'attitude que le croyant doit avoir envers le Seigneur. C'est ce passage nous dit. Que devons-nous penser et comment devons-nous réagir face à notre grand Dieu miséricordieux qui nous dévoile ainsi son cœur? J'ai des projets de paix et non de malheur pour mes enfants. Vous serez d'accord avec moi pour affirmer que notre attitude devrait être une attitude de soumission envers le Seigneur. Il avait envoyé son peuple jusqu'en Babylonie pour leur bien, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Et il en est de même pour nous, frères et sœurs. Verset 12, regardez ce qui est écrit au verset 12. Nous voyons que la prière est stimulée par l'œuvre du Seigneur à leur égard. Vous m'invoquerez. Frères et sœurs, nos problèmes, ils nous amènent à genoux. Frères et sœurs, les Israélites, ils n'étaient pas à genoux à Jérusalem. Ils baignaient dans l'idolâtrie. Ils baignaient dans le péché. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer Nabuchodonosor. Ils ont besoin d'un temps de repos, 70 ans, pour apprendre que je suis le seul Dieu, le véritable Dieu. Et à travers tout ce qu'ils vont vivre comme épreuve, ils vont devenir des esclaves. Ils vont être assujettis à un roi païen. Dieu veut les amener à genoux. Que la prière, c'est important. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Regardez verset 12. Vous m'invoquerez. Vous ne croyez pas que Dieu veut nous amener à genoux à travers différentes épreuves? Oui. Frères et sœurs, s'il n'y avait pas eu Ésaü, Jacob n'aurait jamais eu besoin de lutter à Jabbok. Jamais. Et il n'aurait jamais rencontré le Seigneur. Quand Jacob a lutté à Jabbok parce qu'il craignait Ésaü, il a lutté toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Et quand il en est ressorti, frères et sœurs, il y a eu une nouvelle naissance dans la vie de Jacob. On ne l'a plus jamais appelé Jacob, on l'a appelé Israël. Il venait de recevoir un nouveau nom, Israël. Et j'ose espérer, frères et sœurs, que nous ne nous recueillons pas dans nos chambres parce que nous y sommes forcés. Le Seigneur prend plaisir à voir ses enfants prier, intercéder pour ce monde, pour les élus, pour les malades, pour ceux qui sont en difficulté, pour ceux qui sont désespérés. Plusieurs de nos prières ferventes, les plus ferventes, qui montent directement devant le trône, sont exprimées lorsque nous sommes envahis par un sentiment de tristesse intense. Oui, nous devons remercier le Seigneur lorsqu'il nous permet de vivre certaines situations dérangeantes, parce qu'il cherche à produire en nous un esprit de prière, et une pleine conviction que nous ne prions jamais trop en vain. Jamais nous ne prions trop en vain. L'attitude que le chrétien doit avoir avec le Seigneur, c'est une attitude de sanctification. Jérémie 24, 7, « Je leur donnerai un cœur pur, un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur, dit le Seigneur. » Frères et sœurs, le Seigneur désire, à travers notre expérience de vie, nous amener à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire évangélique, lorsqu'on parle de sanctification, ce n'est pas compliqué, ça veut dire ressembler à Jésus-Christ. C'est ça la sanctification, c'est ressembler à Jésus-Christ. Ce n'est pas de devenir un saint, puis espérer avoir une statue à quelque part un jour, c'est ressembler à la personne de Jésus-Christ. C'est ça la sanctification. Ouais. Et vous savez ce que ça veut dire, ressembler de plus en plus à Jésus-Christ? C'est d'agir comme lui a agi, c'est de penser comme lui a pensé, et c'est de parler comme lui a pensé. Ça, c'est ressembler à Jésus-Christ. Et je le répète, je vous invite à lire le livre « Que ferait Jésus à ma place? » Lisez-le. « Que ferait Jésus à ma place? » Un excellent livre. Et c'est stimulant parce que c'est un fait vécu. Un fait vécu. Ça a remis une église complètement debout. Ça a provoqué un réveil dans la vie des chrétiens qui fréquentaient cette église. Des gens qui vivaient dans le péché, qui ne pensaient pas que c'était péché ou que c'était des petits péchés. Et avant de le commettre, ils se posaient la question, « Que ferait Jésus à ma place? » Un propriétaire de journaux qui permettait des petites annonces, coquines, et qui, après avoir pris l'engagement de faire ce que Jésus ferait à sa place, a commencé à feuilleter son journal, il a commencé à faire des X un peu partout, qu'en tant que chrétien, il ne pouvait plus se permettre de passer ses annonces dans son journal. Il y a eu une pression énorme de la part de ces journalistes qui lui ont dit, « Écoute, tu es en train de mettre notre journal en faillite. » Et il leur a dit, « C'est pas une question d'argent maintenant pour moi. C'est une question de savoir ce que Jésus ferait à ma place. » Frères et sœurs, ça bouleverse nos vies, ça. Et pourtant, c'est ce que Dieu vise, faire en sorte qu'on puisse ressembler à Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous y arrivez, il va nous donner un cœur nouveau afin que nous soyons capables de refléter véritablement celui qui est la lumière, et être un temple où Dieu prend plaisir à y habiter. Réjouissons-nous jour après jour, parce que nous recevrons comme prix de notre foi le salut de nos âmes, dit Pierre. Et ainsi, le Seigneur aura atteint le but qui s'était fixé pour chacune de nos vies. Les gens de ce monde font tout pour prolonger les jours de leur vie, parce qu'ils vivent sans espérance ici-bas. Mais nous ne souhaitons pas demeurer sur la terre indéfiniment, frères et sœurs. Nous nous appliquons à courir la course qui nous est proposée, dit l'apôtre Paul, tout en sachant qu'elle se terminera un jour. Voilà aussi ce qui fait notre joie. Béni soit le Seigneur pour cette espérance, pour cette fin inespérée et ô combien glorieuse, frères et sœurs. Imaginez si notre pèlerinage terrestre devait se terminer par la venue de Jésus-Christ. Ô combien nous aspirions que cela se réalise de notre vivant, n'est-ce pas? Le voir descendre du ciel, frères et sœurs, en appelant ses enfants à le rejoindre. Quelle fin inespérée pour un croyant! Mais si le Seigneur Jésus ne revient pas de notre vivant et que nous devions être ramenés à la maison du Père, en laissant notre corps mortel sur cette terre, nous ne sommes pas inquiets en pensant à cette fin inattendue, frères et sœurs. Les paroles de Jésus qu'il a adressées aux malfaiteurs sur la croix résonnent dans nos cœurs et nous nous réconfortons au-delà de toute mesure concernant ces paroles. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Malgré tout ce que tu as fait de mal dans ta vie, parce que tu m'as reconnu, parce que tu t'es repenti, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et frères et sœurs, le malfaiteur, il n'a peut-être pas vécu dans l'Église toute sa vie. C'est un meurtrier. Mais il avait compris le plan du salut à travers le témoignage que Jésus a apporté cette journée-là. Rappelez-vous ce qu'il dit. Il dit à l'autre, premièrement, de se taire. Hey, nous, on a rien, lui n'a rien fait de mal. C'est nous qui méritons d'être. Hey, là, il réalise qu'il mérite le châtiment, un juste châtiment pour ce qu'il a fait de mal. Et il reconnaît que Jésus est sans péché, qu'il n'a rien fait de mal. Et vous savez ce qu'il lui dit? Il croit au retour de Jésus. Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu vas être un des premiers, toi, à rentrer au ciel avec moi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle bénédiction! Un malfaiteur! Quelqu'un peut-être qu'on aurait eu de la difficulté à accepter dans notre Église. Peut-être quelqu'un qu'on ne se serait pas assis nécessairement à côté. Pas habillé comme nous, passe pas comme nous, avec un passé épouvantable. Et la parole nous dit que Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, il est venu dans le monde pour sauver le monde. Et quand Jésus a entendu les paroles du malfaiteur, son cœur s'est brisé. Même s'il était cloué sur la croix, son cœur était brisé d'entendre ses paroles. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras dans ton royaume. Et quelle parole de réconfort! Il était à deux doigts d'aller en enfer. Deux doigts. Et parce qu'il se repent, il entre dans la présence de Dieu. L'autre malfaiteur, il était à deux doigts d'entrer au ciel. Et parce qu'il a continué à cracher son venin de pécheur, eh bien, c'est l'enfer qui lui est destiné pour l'éternité. Quel Dieu nous avons, frères et sœurs. Pensez que quand on meurt, on s'en va dans la présence directe de Dieu. Il a aussi dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quelle place, frères et sœurs! Quelle place! Et on ne sera pas déçus. Jésus n'est pas en train de nous construire un cabanon. Ça doit être magnifique s'il est en train de nous construire, frères et sœurs. Magnifique! Chers amis, nous qui se croyons fils, nous sommes appelés un jour à rentrer un par un dans la maison du Père. Et je termine avec un passage de John Wesley. Le 2 mars 1791, alors qu'il allait avoir 88 ans, la carrière terrestre de John Wesley prenait fin. Toute la nuit précédente, ses lèvres n'avaient jamais cessé de prononcer des paroles d'adoration et de louange. Son âme était inondée de joie devant les gloires du foyer éternel. Et il s'exclama, « Ce qu'il y a de mieux, c'est que Dieu est avec nous. » Ce qu'il y a de mieux, c'est que Dieu est avec nous. Romains 8, 31. Puis, levant la main comme un signe de victoire, il répéta à nouveau, « Ce qu'il y a de mieux, c'est que Dieu est avec nous. » À 10 heures du matin, entouré de croyants qui priaient autour de son lit, il dit « Adieu » et il comparut ainsi dans la présence du Seigneur. Un croyant qui assista à sa mort rapporta cet événement de la façon suivante. « Nous ressentions tous la présence divine et il n'y a pas de mots pour décrire ce que nous vîmes sur son visage. » Et plus nous le contemplions, plus nous voyons refléter sur son visage un ciel indescriptible. Frères et sœurs, vos doutes disparaissent quand vous voyez de quelle façon les croyants meurent. Dieu leur accorde une grâce particulière afin qu'ils puissent surmonter la faiblesse de ce moment. Le Seigneur Jésus, qui habite en eux par son esprit, a triomphé de la douleur et de la mort. Frères et sœurs, lorsque la mort est passée, vient alors cette fin inespérée, cette espérance bénie qui ne se terminera jamais avec Dieu. Nous avons la joie dans notre cœur de savoir que nous sommes invités aux noces de l'agneau. Nous sommes des invités aux noces de l'agneau. Quelle table ce sera, frères et sœurs, quelle table! Heureux ceux qui prendront leur repas aux noces de l'agneau, nous dit la parole. C'est Jésus qui le dit. Dans Luc chapitre 14, verset 15, nous sommes heureux parce qu'à la résurrection des morts, nous recevrons un corps glorifié, où notre corps et notre esprit ne feront plus qu'un. Quel beau mariage! Quel beau mariage! Nous rassemblerons alors parfaitement notre Seigneur. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'est-ce pas merveilleux? Comment réagirons-nous lorsque nous serons introduits auprès des anges, des chérubins, des séraphins, des archanges? Vous imaginez, on va rentrer au ciel, frères et sœurs. Comment on va réagir quand on va les voir devant nous? Eux qui, depuis qu'ont été créés par Dieu, louent, l'adorent. Comment allons-nous réagir? Comment réagirons-nous lorsque nous verrons le Seigneur Jésus, lui qui nous a aimés depuis tant d'années? Comment on va réagir quand on va le voir au ciel? Des bonnes questions à se poser. Et comment réagirons-nous lorsque nous l'entendrons dire, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » On va être dans la joie, frères et sœurs. On va peut-être être bouche bée, ou on va se mettre à genoux, on va le louer, on va l'adorer. Ah, frères et sœurs, on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer ce qui nous attend au ciel. Quelle joie ce sera de se retrouver aux côtés de Jésus-Christ. Frères et sœurs, en terminant, rappelons-nous que toutes nos souffrances, tout ce que nous apprécions, tout ce que Dieu permet qui nous arrive, tout cela vise qu'un seul but, nous permettre, nous préparer à la rencontrer et à avoir part à l'héritage de ceux qui vivent dans la lumière. Le Seigneur pense à nous et il nous attend à la maison. Que nous puissions dire avec David, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter un cantique dans les ailes de la foi.